Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Christ est ressuscité. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui, premier dimanche après Pâques, dit dimanche de Thomas, est consacrée à un sujet profondément lié à la résurrection du Christ, le corps ressuscité. Pour parler des différentes approches théologiques du corps ressuscité, nous recevons le père Jean Bobok, docteur en théologie orthodoxe, et auteur d'un ouvrage intitulé « La grande métamorphose, éléments pour une théo-anthropologie orthodoxe ». Ce livre est paru en 2014 aux éditions du Cerf. Père Jean, quelle est l'interprétation que fait la patristique du corps ressuscité ?
Oui, tout d'abord, en vérité, il est ressuscité. Le corps ressuscité du Christ, tel que nous l'enseignent les évangiles lors des différentes apparitions, que ce soit à Marie-Madeleine, au Cénacle, sur le bord du lac de Tibériade ou lors même de son ascension, interpelle le croyant à plusieurs égards, car nous sommes au-delà de la logique humaine et des lois de la nature. Est-ce un corps physique, concret, fait de chair et d'os, un corps pneumatique, un corps spirituel, un corps photique, un corps dématérialisé? Telle est la question. Et les pères de l'Église se sont penchés sur ces interrogations, tout en ayant bien à l'esprit la leçon paulinienne de la métamorphose. La théo-anthropologie orthodoxe que je défends, étant christologique, c'est à partir de ce que les Écritures disent du corps du Christ ressuscité que nous pouvons tirer des éléments de réponse à la question de la nature de nos corps ressuscités en nous appuyant sur elles et sur les testimonies patristiques. Déjà dans l'Ancien Testament, la vision d'Ézéchiel avait apporté des éléments marquants pour la représentation de la levée des morts qui retrouvaient et réorganisaient leurs os desséchés, revigorés, les tendons, la peau, en un mot, la chair, le bachar. Mais ce qui ressuscite chez Ézéchiel, ce n'est que le corps psychique, celui justement que Paul met en terre pour qu'il ressuscite spirituel. Alors d'Ézéchiel à Paul, on assiste à un changement de niveau de la même réalité et à sa mutation pneumatique. C'est ce que Kierkegaard aurait appelé un saut qualitatif. Le véritable changement est celui de la condition, de la modalité, ce que les langages philosophiques des pères appellent le tropos, de même que l'incarnation du Verbe est un changement de niveau de la même réalité divine, tout comme sa résurrection, il s'agit pour le corps de l'homme d'un passage à une autre modalité d'existence, tout en conservant une identité de logos, c'est-à-dire de nature, selon la terminologie de saint Maxime le Confesseur. C'est ce que disait aussi Tertullien bien avant lui. C'est la métamorphose pneumatique à son plus haut degré. Saint Siméon, le nouveau théologien, voit le corps ancien et la création comme, tout le monde connaît la citation, comme un instrument de cuivre vieilli, piqué par la rouille et hors d'usage, qui passe au feu par le maître artisan et rendu neuf après qu'il l'ait fondu. Bien de même, la création salie par nos péchés et devenue vieille sera dissoute au feu et changée pour devenir étincelante et totalement neuve, sans aucune ressemblance avec celle que nous voyons actuellement. C'est une recréation nécessaire pour correspondre aussi au corps ressuscité. Et s'appuyant sur saint Paul et le commentant, il ajoute « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit nous être révélée, c'est la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » Certains pères de l'Église ont avancé que les hommes pneumatisés, devenant comme des anges, ne sauraient avoir de corps. Contre eux, par exemple, Méthode d'Olympe s'est élevé et a fait valoir que Dieu avait un but en créant les hommes comme des hommes et les anges comme des anges, et qu'il n'y a pas lieu d'oser penser que Dieu dut se reprendre sur son ouvrage et changer les hommes en anges. Donc les hommes ressusciteront bien avec un corps. S'il est difficile de déterminer l'image du monde nouveau, dit le théologien orthodoxe Stanilo Haye, il est encore plus compliqué de déterminer celle des corps ressuscités. Nous sommes en face d'une question qui relève de l'ordre pneumatique et apophatique. Et c'est là qu'il faut introduire la notion de forme et de substance. Pour la logique interne de mon propos, j'insisterai essentiellement sur le caractère pneumatique, naturellement, des corps ressuscités, tout en précisant que le terme « corps spirituel », s'il implique bien qu'il possède une forme, une morphée, n'en possède pas moins une substance. Pour Grégoire de Nice, par exemple, le subtil et l'aérien sont les maîtres mots de la métamorphose. Je le cite « Tu verras cette enceinte corporelle actuelle dissoute par la mort, retissée à partir des mêmes éléments, le tissu filait de nouveau, non pas selon cette organisation épaisse et lourde, mais en plus léger et en aérien, si bien que ce que tu chéris soit présent et restauré en une beauté meilleure et plus aimable. La position orthodoxe, basée sur les testimonias des pères, affirme que les corps ressuscités auront une forme, mais aussi un contenu matériel, ou du moins quelque chose de ce contenu du corps terrestre, ne fût-ce qu'une infime partie, de façon que les ressuscités puissent faire l'expérience de leur corps propre pour, avec l'âme, se réjouir ou souffrir. Mais ceci ne doit pas faire oublier que les corps ressuscités ont essentiellement un caractère pneumatique, donc ce qu'ils contiendront de matière sera aussi de la matière pneumatisée. Et c'est cela la leçon et l'enseignement que l'on peut tirer du corps du Christ ressuscité, qui n'est plus limité par les contraintes physiques et qui cependant garde d'apparentes capacités physiologiques, à moins que ce ne fût dans un sens pédagogique. Il est certain que devant ce mystère de la résurrection des corps, il pourrait être sage et préférable que toute chair fasse silence. Néanmoins, il y a eu un débat très intéressant, fictif en fait, c'est la critique qu'apporta le père Dumitru Staniloaie au philosophe Nikolai Loski, le père du théologien Vladimir. Nikolai Loski, examinant la question de l'interpénétrabilité des corps spirituels, a posé des questions difficiles à résoudre. Il dit par exemple, « Les membres du royaume de Dieu ne se trouvant sous aucun rapport d'opposition entre eux, ni de répulsion dans l'espace, n'ayant pas de corps matériel, leurs corps transfigurés tiennent à des manifestations lumineuses, sonores, caloriques, etc., qui ne s'excluent pas l'une l'autre, ni ne se distinguent de façon égoïste, mais sont capables de pénétration réciproque. » Fin de citation. L'impénétrabilité des corps due à l'épaississement de la matière et des corps depuis la chute et servant l'égoïsme exclusiviste doit donc cesser. Alors la pénétration des corps ressuscités n'aura aucune des conséquences de l'abaissement de la pénétration réciproque terrestre. Elle est absolument opposée à toute débauche, elle est pénétrée de pureté et de fraîcheur comme un baiser innocent d'enfant, dit-il. C'est bien entendu cette idée de pénétration universelle des corps ressuscités qui permet à Nikolai Loski de parler de corps universel après la résurrection. Les élus gagneraient ainsi une unité concrète d'existence. Je le cite, « Le royaume de la beauté parfaite construit même le corps des hommes, comme elle, devenant impénétrée, il n'y a plus en eux la moindre tendance de domination personnelle, mais ils servent à tous, s'accomplissant l'un l'autre et se rendant plénitudes universelles qui sont les organes de la plénitude totale du royaume de Dieu. » Ce qui est en apparence parfaitement paulinien et patristique et rejoint la conception de Grégoire de Nyssa sur notre devenir en tant que corps et membre du Christ. Néanmoins, et à très juste titre, le père Dumitru Staniloaie avait émis quelques réserves sur cette notion d'interperméabilité des corps ressuscités. Si en effet les corps ressuscités sont bien pneumatiques, il est clair qu'ils sont au-dessus de l'impénétrabilité naturelle des corps terrestres. La théorie de la pénétrabilité fait référence à une catégorie matérielle et tient en elle quelque chose de l'ordre de la nature, et il semble que Loski soumette les corps ressuscités à deux catégories naturelles opposées et non supérieures aux catégories naturelles des corps terrestres. Alors il y a deux critiques. Loski semble décomposer le corps ressuscité en manifestations d'ordre naturel, telles que les manifestations lumineuses, caloriques, sonores, etc., et qui ne mettent pas en relief l'unité propre de chaque corps. Or, nous savons, écrivait le père Staniloaie, que le corps ressuscité du Christ a pu être vu et touché en tant qu'intégrité et reconnu comme son corps personnel, ce qui montre qu'il a conservé son unité et ses caractéristiques personnelles. La deuxième remarque critique porte sur le corps universel versus le corps personnel. Nikolai Loski laisse entendre qu'en se faisant porteur du corps universel, le ressuscité n'a plus l'expérience du corps personnel propre, ni des corps des autres en tant que corps distinct, si bien que la réalité spécifique de chacun est défaite et noyée dans le corps universel. Et Loski use d'ailleurs d'une affirmation paradoxale, puisque le fait d'avoir un corps universel ne prive pas les habitants du ciel d'un corps individuel distinct de celui des autres, mais ce qu'ils perdent, c'est l'existence personnelle individuelle. Donc, ce qui devrait être résolu, c'est l'apparente contradiction entre l'unité spécifique de chaque corps ressuscité, correspondant à l'unité spécifique de chaque âme humaine, et l'union entre tous les corps, de façon que chacun puisse vivre le lien avec tous. Le sentiment de la distinction de son propre corps par rapport à ceux des autres n'est pas un fait générateur de séparation. Le fait d'avoir une forme propre ne la rend pas étrangère aux formes des autres. La notion de corps universel ne peut signifier de voir se noyer en un seul corps les corps personnels. Et même si l'on utilise l'expression de corps universel, dans ce corps universel, je distingue, moi, mon propre corps du corps des autres et mon corps qui est unique et autrement mien que celui des autres. Chaque personne reste un unicum, unicum, non seulement en son âme, mais aussi en son corps, et ce, dans la plus étroite communion. Où serait alors la beauté si chacun avait tout comme chacun ?
Merci Père, donc pour ce rappel des positions des Pères et jusqu'à ce débat du XXe siècle avec les réponses du Père Domitros Aniloe, on se pose la question du corps lumineux aussi. Que cela veut dire ?
Le corps lumineux. Le corps lumineux, c'est un terme qui a été utilisé dans la philosophie grecque. Mais quant à la nature lumineuse des corps ressuscités, Palamas nous dit bien que la lumière est ainsi un état de l'être humain et qu'elle est même l'état culminant de la spiritualisation. Elle n'exclut pas une structure intérieure, de même que le monde de demain lumineux aura une richesse structurelle pneumatisée du monde d'aujourd'hui. Il y a là un aspect patristique de grande importance, comme le défend saint Grégoire de Nice. Le monde et les corps seront justement restaurés parce que Dieu les a créés bons et qu'il n'y a pas lieu pour lui de revenir sur sa décision quant à leur existence. « Voici, je fais toute chose nouvelle, ne contredis pas l'existence du créé. » Le corps lumineux, c'est le corps de lumière sur lequel je dirais peut-être quelques mots si on avait le temps d'aborder l'apport de l'art dans la représentation du corps ressuscité. C'est vrai avec Rembrandt, c'est particulièrement vrai avec lui dans « La résurrection ». Avec une lumière qui est en fait la lumière taborique, qui est la lumière incréée. Et nous savons tous ce que Séraphin de Sarov a vécu comme expérience, c'est le corps lumineux. Mais je pense qu'il faudrait parler de la spiritualisation de la matière, parce que c'est cette question qui met mieux en relief justement la lumière.
Qu'est-ce qu'on entend justement par spiritualisation de la matière ? Et comment peut-on concevoir un corps spiritualisé ?
Le caractère résurrectionnel du retour du Christ en sa forme pneumatico-corporelle, c'est un retour par l'esprit dont est empli son corps ressuscité, je dirais sursaturé d'esprit. Nous savons que la lumière du Tabor doit envahir le monde entier et réaliser la transfiguration universelle par la lumière et la gloire venant de la nature divine, par la participation à la plénitude des énergies incréées. La forme actuelle du monde doit donc disparaître, tout comme la forme des corps, pour ressusciter en une forme nouvelle, capable d'être récipiendaire, plénier de l'Esprit divin. Il s'agit donc d'une reconstruction pneumatique, donc divinisée. Le monde ne disparaît pas, la matière n'est pas abolie en soi, mais sa forme actuelle change de telle sorte, comme le dit Grégoire Palamas, que ce n'est plus l'esprit qui sera vu par la matière, mais la matière par l'esprit. Une matière qui échappe à la réification, qui se pneumatise au point que le monde cesse d'être un objet extérieur utile à notre corps qui est devenu incorruptible, à l'image de celui du Seigneur, et n'en a plus besoin. Le monde entier devenant un contenu spirituel sera éternellement nouveau à l'aune de notre progression dans notre capacité épectasique à connaître Dieu. Le monde sera pleinement personnifié par chacun, il sera le corps commun de chacun, chacun héritera de la terre entière. L'homme ne sera plus étranger à cette terre dont il héritera enfin, après n'y avoir été que de passage. C'est ce qu'affirme saint Siméon, le nouveau théologien, lorsqu'il dit « C'est lorsque tout le monde terrestre sera uni entièrement au monde céleste, que les justes recevront aussi en héritage cette terre que les doux, déclarés bienheureux par le Seigneur, ont pour héritage. » L'incorruptibilité de ce monde renouvelé est solidaire et corrélative à celle des corps ressuscités. On peut dire même avec saint Maxime le Confesseur, que si les corps ressuscités ne mangent, ni ne boivent, n'absorbent, ni n'éliminent, et donc ne se corrompent plus, alors la substance du monde doit aussi leur correspondre. Et ce d'autant que sa corruptibilité antérieure était due au péché. C'est aussi la position de méthode d'Olympe, qui, refusant que Dieu ait pu créer quoi que ce soit en vain, attend de la mort des corps et du monde actuel une purification permettant le retour à une existence pure et spiritualisée. La pneumatisation ou la spiritualisation de la matière doit être comprise dans un rapport dynamique de causalité entre l'absolue nécessité d'une pneumatisation de la matière pour permettre la résurrection des corps et une pneumatisation du cosmos pour justement permettre leur existence aux corps pneumatisés. Et on trouve ici donc la logique interne de la corrélation eschatologique de la pneumatisation de la matière et des corps. Et ceci n'est pas une formule à l'emporte-pièce. Parler de la sainteté du corps du Christ, en partant de la sainteté du corps du Christ, le christianisme croit en l'éternité de la matière, mais d'une matière transfigurée par les énergies divines, et admet donc une sorte de matérialisme mystique ou de sainteté de la matière, concluait le père Stanley Loyer sur une question d'eschatologie universelle.
Merci père Jean Boboc. Alors nous allons maintenant parler, pour les quelques minutes qui nous restent, d'une question qui est tout à fait naturelle, je pense, pour quelqu'un qui vit dans le monde d'aujourd'hui. On parle de plus en plus de sujets de science-fiction, l'homme bionique, je ne sais même plus si c'est de la science-fiction. Peut-on concevoir le corps ressuscité comme une annonce de l'homme bionique, par exemple ?
C'est une merveilleuse question qui m'atteint directement, puisque j'enseigne dans cette matière. Mais je dirais d'abord que pour les chrétiens, l'assurance de la résurrection, le passage de la vie terrestre à la vie céleste, c'est le gage de l'éternité de chaque être. Et que la confiance dans le message pascal et la conscience de notre éternité sont d'autant plus importantes aujourd'hui que les sciences, naturellement, se veulent démiurgiques et tentent de repousser progressivement les limites de la mort biologique. Elles poursuivent la chimère de l'immortalité terrestre. Opposée à la cité céleste, on veut mettre fin à la mort et à la condition humaine dans une cité terrestre utopique qui n'aurait d'ailleurs plus rien d'humain et ne relèverait plus que du numérique. Mais est-ce vraiment utopique lorsque l'on voit ce qui se passe? C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans l'ère du transhumanisme. Et bientôt, du post-humain. C'est-à-dire de l'homme augmenté, de l'homme bionique, du cyborg et de la machine homme, car tel est le but, qui répond comme en miroir à l'homme-machine, dont Fred Lametti, titre d'un livre que Voltaire appréciait particulièrement, et là tout est dit. Les gourous de ces technologies et de ces sciences, désignés par le sigle NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, voudraient être capables de télécharger le cerveau sur un serveur et donc de permettre, au-delà de la réparation matérielle de l'homme, d'augmenter ses performances naturelles tant physiques que mentales, c'est déjà d'actualité, d'en faire un super-homme, c'est aussi d'actualité militaire, en permanence réparable par des organes et des membres de rechange, menant alors une vie très prolongée et bientôt échappant à la mort.
Est-ce qu'on peut donc dire que le corps ressuscité est déjà annoncé par la science ?
La science ressuscite aujourd'hui des gens qui sont donnés pour morts, parce que d'abord, la définition de la mort est à géométrie variable en fonction de l'avancée des technologies. Mais il ne s'agit pas de ressusciter des hommes, il s'agit de les rendre vivants en permanence avec des appareillages techniques et d'unir la technologie à la vie humaine. Et là est le blasphème.
Merci. Une question à méditer vraiment, parce qu'on a de plus en plus l'impression, par les progrès justement de la science médicale, et je rappelle que vous êtes médecin aussi, vous êtes théologien et médecin aussi, donc vous pouvez apprécier doublement ce genre de questions, c'est pourquoi d'ailleurs vous enseignez la bioéthique. Peut-être pour terminer, un voyage dans l'art, parce que l'art a rendu, tant l'art occidental que l'art des icônes orthodoxes, ont rendu le corps ressuscité d'une certaine manière. Dans les icônes, on voit le Christ après la résurrection. Qu'en est-il au fait ?
Nous sommes dans deux mondes différents entre l'Orient et l'Occident dans cette appréciation artistique. Donc le corps du Christ ressuscité naturellement a inspiré beaucoup d'artistes. Le corps glorieux du Seigneur se levant dans la lumière incréée, resplendissante et taborique, telle qu'a voulu la représenter Rembrandt, au-delà de la réussite magistrale du rendu de la lumière dans une idée humaine de la force divine de la résurrection, tout comme sa maîtrise du clair-obscur, permet de sentir la présence divine, légère, rayonnante du Christ à Emmaüs, et même sa prochaine évanescence. Mais un autre grand maître est le Caravaggio, traite d'un aspect différent de la résurrection, celui concernant l'incrédulité de Thomas. La foi de Thomas est seulement retardée, pour n'en être que plus forte, fondée sur la vue et le toucher. La septième ode, aux matines, nous dit « Ce n'est pas en vain que Thomas doutait. Thomas craintivement mit sa main dans ton côté vivifiant, il y perçut la double énergie de tes deux natures, Christ Sauveur, uni en toi sans confusion. Et dans la foi, il s'écria « Tu es le Seigneur exalté par-dessus tout, Dieu de nos pères et le nôtre, tu es béni. » Thomas a donc besoin de toucher, le visible ne lui suffit pas. Et encore moins le témoignage de ses frères. D'une façon générale, le voir est toujours tendu vers le toucher. Ainsi, toucher le corps du Christ, c'est en fait vérifier la réalité de la vision qui pourrait n'être qu'un mirage. Ceci est un point particulièrement important quant au gnosticisme. Le grand Tertullien avait su lutter contre les hérésies et les gnostiques qui faisaient du corps du Christ un corps éthéré. Mais revenons à ce que fait le Caravage. On voit Thomas fouiller de l'index tendu explorateur la plaie du côté du Christ qui lui-même bienveillant de sa main dirige celle de Thomas qui se convainc alors de la réalité de la chair du Christ et de cette résurrection. Bien. Jamais une icône orthodoxe n'irait aussi loin dans un réalisme aussi cru. Les icônes que nous connaissons ne montrent en général que le geste de Thomas, ébauché, le bras tendu vers le Christ, s'approchant du corps du Christ, sans que nous sachions s'il le touche ou s'il s'en approche seulement, cette fois la vision aurait suffi, et non pas le toucher. En fait, du noli me tangere, ne me touche pas que le Christ ressuscité dit à Marie-Madeleine, au geste de Thomas, il y a une fécondité théologique considérable. En fait, de la représentation par le Caravage de l'épisode de l'incrédulité de Thomas à celle de l'icône orthodoxe, pleine de mysticisme et de foi, il y a deux mondes de sensibilités différentes.
Merci beaucoup, Père. Ce sera donc le mot de la fin. On y pensera en regardant l'icône de Thomas. Et notre prochaine émission, ce sera dimanche 3 mai. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Michel Mestre. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.